Radio Campus.
Ça vous fera pas de mal un peu de chasteté.
Manchester. Embrace your new found love.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là.
Hello, hello, il est midi sur Radio Campus. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des aides-soignantes qui jouent un rôle crucial sur notre beau système de santé qui ne cesse de s'envoler petit à petit aujourd'hui, avec grand plaisir bien sûr. Vous êtes bien dans Écoute ta fac, l'émission de la vie étudiante, et on est ensemble pendant une heure. Et aujourd'hui, on déroule l'agenda du CDNO et du bouillon, mais pas que, parce que maintenant tu vas aussi avoir quelques dates à nous partager. Donc on sera accompagné normalement de Océane Duhamel, chargée des relations avec les publics. Bon, on va peut-être présenter ça quand ils arriveront, ce sera plus simple. On est d'accord, Marion ?
Oui, oui.
Allez, on va pas faire un truc à rallonge, on fait dans le simple efficace. Donc pour la deuxième partie, on aura des recommandations de livres qu'on avait déjà fait mardi dernier. Et toi, Marion, tu vas nous lire une histoire aussi que t'as écrite. Pardon, je t'ai même pas introduit, comment ça va ?
C'est pas grave.
Je t'ai oublié en fait, voilà.
Ça va et toi ? Et bah, vous aussi, est-ce que ça va chez vous ?
Est-ce que ça va chez vous ? Eh ben, on se met le petit jingle et puis on commence tranquillou.
Ouais.
Allez, c'est parti.
Écoute ta fac.
L'agenda.
Tu le veux celui-là ?
Ce soir à 17h30 pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, retrouvez une table ronde au sein de l'Université d'Orléans à l'amphithéâtre Simone Veil de l'UFR Droit Gestion sur le thème « Agir contre les violences sexuelles et sexistes en milieu festif ». On a aussi du 23 novembre 2024 au 2 février 2025 la collégiale Saint-Pierre-le-Péluyer qui accueillera l'exposition de Malik Nejmi « Terre-Terre, soignez le quartier ». Plongé dans une immersion artistique du quartier de la Source et de la Terre T17. Le Muséum d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement vous présente l'exposition également Odyssée des récifs aux abysses. Cette exposition commencera le 6 décembre 2024 à 18h30 jusqu'au 5 octobre 2025. Vous allez faire la connaissance d'Alizée, de sa grand-mère et de leur tortue Lute, pour explorer les récifs coralliens et le fin fond de l'océan. C'était tout pour moi, pour cet agenda.
Merci beaucoup. Et ben, on fait une petite pause musicale avant d'accueillir du coup le CDNO, également le bouillon, je ne sais pas s'ils sont arrivés aussi. On continue avec du coup Foutre le bordel de la femme, restez avec nous sur Radio Campus.
Le Tao à tous les étages.
Et on est de retour devant les micros et on est avec Florenza.
Océane.
Oh là là, je vais pas y arriver aujourd'hui, je suis désolée. Océane, merci d'être avec nous. De quoi tu vas nous parler du coup ?
Eh bien, aujourd'hui, je viens vous parler des prochains spectacles que nous accueillerons au Centre Dramatique National d'Orléans, donc au Théâtre d'Orléans, sur les jours et semaines qui viennent, et notamment La vie secrète des vieux de Mohamed El-Khatib que nous présenterons cette semaine. Et puis, un peu plus tard, dans les jours qui viendront, début décembre, nous accueillerons Daddy de Marion Sieffert. Voilà, donc je venais vous parler un petit peu de ces deux projets.
Et est-ce que tu pourrais nous dire les dates de ces deux projets qui vont arriver ?
Alors, pour La vie secrète des vieux, le spectacle sera présenté cette semaine, mercredi 27 novembre, jeudi 28 novembre et vendredi 29 novembre, à 20h30 le premier soir, 19h30 le deuxième soir et 20h30 le troisième soir. On aime bien faire les choses un peu compliquées parfois, c'est pour vérifier que vous suivez. La première, c'est demain soir. Il reste des places pour les trois dates. On est quasi complet demain et après-demain, donc c'est plutôt sur vendredi qu'il reste de la place, mais sinon on peut inscrire tout le monde sur liste d'attente, il n'y a pas de souci. Évidemment, les spectacles suivent la même grille tarifaire que d'habitude chez nous, donc les spectacles sont gratuits pour les étudiants et étudiantes, on le répète encore. C'est le cas pour tous les spectacles du Centre Dramatique. Et donc pour La vie secrète des vieux, c'est un projet de Mohamed El-Khatib, qui est un metteur en scène de la région, qu'on a déjà accueilli de nombreuses fois à Orléans, qui connaît bien la maison, qui a présenté plusieurs projets. La dernière fois qu'on l'avait accueilli, c'était pour Boule à neige, il y a quelques années maintenant. Et donc là, La vie secrète des vieux, c'est un nouveau projet qui a été créé l'an dernier, qui est en tournée depuis et qui met en scène des amateurs amatrices qui ont la particularité d'être vieux et vieilles. Ils le disent eux-mêmes, donc c'est pour ça que je me permets ces termes. Ils sont tous et toutes d'un certain âge et ils viennent nous parler au plateau de la question du désir, de la vitalité, de ce qui les réjouit aussi. Donc ils nous parlent beaucoup de leurs histoires d'amour, de leurs histoires intimes, et c'est un projet qui est à la fois très drôle et très touchant, comme la plupart des projets de Mohamed El-Khatib. Quand on connaît son travail, on sait que voilà, c'est plutôt quelqu'un qui est sur ce registre-là, donc on peut passer assez facilement du rire aux larmes sur ses spectacles. Donc c'est un spectacle qui dure 1h10, voilà, ils sont 8 au plateau pour nous parler de tout ça, c'est très réjouissant et on espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir le découvrir.
Et c'est quel type de public, est-ce que tout le monde peut aller voir
Alors absolument, c'est pas parce que ça s'appelle La vie secrète des vieux que c'est pour les vieux, au contraire, c'est un projet qui vraiment, moi je l'ai vu il y a quelques mois, c'est un projet qui vraiment s'adresse à tout le monde. Alors peut-être pas aux enfants, aux plus petits, puisqu'effectivement c'est aussi, il y a peut-être un certain humour aussi, une certaine ironie parfois dans ce qui raconte, ou une forme d'autodérision aussi qui peut peut-être échapper aux plus jeunes, mais en tout cas à partir de l'adolescence, c'est un projet qui est tout à fait accessible et qui permet aussi de nous rassembler autour de cette question de la vieillesse, de l'isolement aussi, d'un certain tabou aussi autour de la sexualité peut-être. Enfin voilà, c'est un projet qui, sans être uniquement autour de propos crus, c'est aussi un projet qui fédère et qui est encore une fois très drôle, puisqu'ils ont beaucoup d'autodérision, tous ces vieux et toutes ces vieilles au plateau. On est très heureux de les accueillir en tout cas, et on a hâte de présenter le projet et d'en débattre aussi avec les uns les autres. Et puis c'est un projet qui s'inscrit aussi dans un engagement fort de la part du metteur en scène Mohamed El-Khatib et toute son équipe. C'est aussi des gens qui travaillent activement sur la question de décloisonner un petit peu les différents espaces, et la question de l'âge, de la vieillesse, etc. Ça fait partie du projet de Mohamed El-Khatib qui a beaucoup travaillé avec des EHPAD, avec des structures qui accompagnent aussi les personnes plus âgées, voilà, et qui réfléchit à comment on décloisonne un peu ces lieux-là et comment on en parle autrement et on en fait autre chose que des mouroirs, en fait, voilà. En gros.
Ça m'a l'air super intéressant et super plurigénérationnel. Est-ce qu'on peut parler aussi du coup de Daddy ? Il y a un peu aussi cet aspect-là, j'ai l'impression.
Alors Daddy, c'est un projet tout à fait différent, en fait, mais effectivement qui s'inscrit dans le projet du Centre Dramatique pour...
pour d'autres raisons. Mohamed El Khatib, on est plutôt sur un projet autour du théâtre documentaire, ce qui d'une certaine manière peut correspondre aussi à Dadi. C'est vrai que Mohamed El Khatib, pour le coup, là, il a vraiment été interrogé des personnes, les seniors, les troisième âge, on peut les appeler comme on veut, mais voilà, pour que leur parole, de partir vraiment d'une parole authentique et de faire le spectacle à partir de ça. Pour Marion Sieffert, la manière d'écrire le spectacle est peut-être un peu différente. Donc Dadi, qu'on accueillera cette fois les 11 et 12 décembre, à 19h à chaque fois, on commence un peu plus tôt les représentations puisque le spectacle dure 3 heures. Alors il ne faut pas que ça fasse peur, c'est 3 heures qu'on ne sent pas passer et ça passe très vite. Et c'est d'ailleurs un projet sur lequel on va accueillir beaucoup de public dès le lycée. Donc il y a beaucoup d'enseignants qui ont déjà vu le spectacle et qui viennent avec leurs élèves et qui n'ont absolument pas peur de venir avec des classes sur 3 heures, donc tout va bien. Et c'est un projet là qui aborde plutôt la question du virtuel et des dérives du virtuel. En fait, c'est une fiction, c'est l'histoire d'une jeune fille qui joue à un jeu en ligne sur une plateforme, qui va se créer un avatar et qui, par le biais de son avatar, va rencontrer un autre joueur en pensant que c'est un jeune de son âge. Et en fait, il s'avère que c'est un joueur plus âgé qu'elle, d'où le titre Dadi, en fait. Et donc il va se jouer entre eux une forme, et surtout sur cette jeune fille Mara, une forme d'emprise et c'est un spectacle qui traite de la question de la manipulation aussi via les outils, ces nouvelles technologies. Et donc c'est aussi l'histoire d'une émancipation, de l'émancipation de cette jeune fille qui va prendre conscience de ce jeu un peu, en tout cas de ce rapport, ouais, de manipulation dont elle est victime finalement. Donc c'est un Marion Sieffert, c'est pareil, c'est quelqu'un qu'on a accueilli à Orléans plusieurs fois, qui a toujours eu dans ses projets à cœur de travailler autour des nouvelles technologies, notamment des réseaux sociaux. On avait présenté il y a quelques temps un spectacle qui s'appelait Jeanne d'Arc, qui avait la particularité d'être joué à la fois au plateau et en live sur Instagram. Donc l'actrice au plateau se filmait en même temps pendant toute la durée du spectacle, donc on pouvait suivre le spectacle aussi bien en salle que depuis son canapé. Donc elle questionne beaucoup aussi ses rapports d'image, ce qu'on livre aussi sur les réseaux, etc. Elle avait fait un projet aussi il y a quelques années autour de Facebook. Donc c'est aussi ces médiums-là qu'elle questionne dans son travail et sur lesquels elle réfléchit beaucoup, sans pour autant dire que c'est pas bien et qu'il faut pas les utiliser, mais juste d'attirer l'attention sur comment on s'en sert et ce que ça peut produire aussi dans les rapports humains finalement. Donc Dadi, c'est un projet avec d'une ampleur aussi. Ils sont nombreux au plateau. Il y a une scénographie aussi qui appelle à se projeter aussi dans cet univers virtuel du fameux jeu vidéo dans lequel Mara évolue avec son avatar. Donc il y a un peu ces deux réalités parallèles. Et puis il y a aussi la vie quotidienne, les parents qui s'inquiètent, etc. Donc c'est vraiment une thématique actuelle qui peut parler à tout le monde, en fait, que ce soit les utilisateurs de ces plateformes, de ces jeux, les parents, ça s'adresse vraiment à tout le monde et c'est un spectacle qu'on conseille pareil à partir de l'adolescence, voilà.
Est-ce qu'on peut faire un petit rappel des dates parce que du coup on a...
Donc Dadi, c'est les 11 et 12 décembre à 19h à chaque fois au Théâtre d'Orléans. Et une petite précision aussi autour de Dadi, dans le travail de Marion Sieffert et notamment sur ce projet là il y a une vraie importance de la vidéo, en fait, dans la scénographie, dans la mise en scène, elle a travaillé avec un vidéaste réalisateur qui s'appelle Mathieu Barrère, et on présentera le 10 décembre, donc la veille de la première de Dadi, le film L'Époque de Mathieu Barrère, en partenariat avec le Cinéma des Carmes. Donc il y aura une projection à 19h30.
Et donc il faut aussi prendre les places pour accéder à la projection ou c'est...
Là il faut réserver directement auprès du Cinéma des Carmes ou venir le soir même au moment de la projection. C'est un film qui pareil s'adresse pour le coup véritablement à tous et toutes, mais en particulier à la jeunesse, puisque c'est un film aussi qui questionne l'engagement des jeunes, le désenchantement aussi, c'est un peu toutes ces questions-là au travers de l'étude des luttes actuelles, notamment les luttes féministes, les luttes autour de l'environnement, etc. Donc c'est un très beau projet qui n'est pas directement lié, qui n'est pas en corrélation directe avec Dadi, mais qui en regard en tout cas nous, enfin voilà, on est très heureux de pouvoir le présenter avec les Carmes. Et aussi une autre précision, pour ces deux projets, alors pour La vie secrète des vieux, j'ai oublié de préciser que il y avait une séance qui était disponible en audio description pour les publics aveugles et malvoyants. Donc ça, c'est la séance du jeudi 28 novembre à 19h30. Voilà, on essaye de développer le plus possible aussi ces représentations pour les publics en situation de handicap. Et on a pour Dadi, pour la première fois, on proposera le spectacle avec un surtitrage adapté au public sourd et malentendant. Donc la représentation du 12 décembre de Dadi sera accessible pour ces publics-là. Donc il ne faut pas hésiter à venir découvrir le spectacle. Et pour les gens qui ne sont pas sourds ou malentendants, il ne faut pas s'étonner s'il y a du surtitrage, c'est normal. Voilà.
Ben en tout cas, plein de belles choses qui se préparent. On peut retrouver toutes ces infos de toute façon sur votre site internet.
Absolument, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le site internet, les infos sont à jour. Vous pouvez aussi nous contacter directement, passer au théâtre pour prendre des infos. On est évidemment là pour vous répondre avec grand plaisir.
Ah, super, ben merci d'être venu au CN pour nous dérouler ce bel agenda.
Merci pour votre accueil.
On continue toujours un peu en musique avec Solide de Claude. Restez avec nous, on revient tout juste après. We'll be right back.
Amanda de Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Aujourd'hui, on est aussi avec Dean de l'Université d'Orléans. Alors, bonjour.
Bonjour.
Donc, le lundi 2 décembre, il se passe quelque chose.
Oui, en effet.
Que se passe-t-il?
Ah, bah, on a le grand joie de présenter un documentaire qui s'appelle The Coddling of the American Mind. Donc, c'est un documentaire voilà, pour tous les étudiants qui comprennent l'anglais. Voilà, c'est un documentaire qui vient juste de sortir aux États-Unis et c'est Ted Barakar, le réalisateur, et il était tellement gracieux, il nous a donné le droit de le montrer gratuitement. Voilà, donc c'est le lundi 2 décembre à 18h30 dans l'amphithéâtre Peggy, entrée gratuite, donc venez nombreux. Et j'ai un petit texte pour vous le présenter.
Allez-y, on vous écoute.
Voilà. « The Coddling of the American Mind », le documentaire qui secoue la génération des campus. Et si on remettait un peu en question la manière dont on vit nos études et nos débats aujourd'hui? T'as l'impression qu'on est un peu trop protégé des idées qui dérangent sur ton campus, que les discussions deviennent plus tendues qu'une présentation en amphi? Bah, ce documentaire est fait pour toi. « The Coddling of the American Mind », c'est le film qui va te faire réfléchir sur la culture du « safe space », les débats mous et la tendance à fuir tout ce qui pourrait bousculer notre petite zone de confort. Les débats sont-ils devenus des champs de bataille? Bah, on a tout mis dans un espace sûr, mais est-ce vraiment une bonne idée? La pensée critique, disparue sous la pression des idées toutes faites ou juste trop effrayante pour certains? La santé mentale des étudiants, on va aussi te parler de cette pression invisible qui grimpe en flèche chez les jeunes adultes, cette anxiété et dépression. Tu veux comprendre pourquoi les étudiants d'aujourd'hui sont souvent pris entre la peur et l'inconfort et la quête d'une vérité absolue? Ce documentaire va te faire voir les choses autrement, avec des interviews percutantes et des analyses à la fois profondes et accessibles. Prêt à secouer un peu ton état d'esprit? Viens découvrir pourquoi et comment cette surprotection pourrait bien empêcher la génération future de vraiment se préparer aux défis de demain. The Coddling of the American Mind, parce qu'il est temps de sortir de la bulle.
Eh bien merci, c'est un très beau texte. En tout cas, n'oubliez pas, le lundi 2 décembre à l'amphithéâtre Peggy à 18h30, c'est gratuit, donc venez nombreux.
Merci beaucoup, ça a l'air d'être une super découverte à aller, aller voir. Donc, moi, je pense que j'irai, je suis convaincue. Donc merci, on continue un petit peu en musique avec le titre Up the Wall de Guru Guru. Restez avec nous sur Radio Campus.
Thank you. nom d'un tout puissant, nourri de tourments, qui attend au tournant. Malheur à l'insolent, l'indolore, l'indolent, qui rêve et se répand. Qu'il reste dans le rang, jusque dorénavant, à l'ombre des géants. Sans culpabilité et sans génuflexion, venez vous délecter de nos imperfections. Si l'on vous fait sourire, vous nous ferez le bonheur d'apprécier la splendeur de nos erreurs. La splendeur de nos erreurs.
C'était Reggae in My Head de Prix Libre, Reggae in My Head, oula, Prix Libre qu'on va retrouver le samedi 30 novembre à l'Astrolabe parce que ce sera la deuxième soirée de clôture de ce 30e anniversaire de Radio Campus. On va retrouver également Bound by Endogami, Jean-Loup, NZ2 et Jesse Jess. Plus d'infos demain, on va essayer de développer un peu plus parce que ça va être une grosse soirée, donc venez à l'Astrolabe et fêtez les 30 ans de Radio Campus aussi. Donc on va écouter un titre de Bound by Endogami qu'on retrouvera le 30 novembre. Endogamie qu'on pourra retrouver le samedi 30 novembre à l'Astrolabe avec Radio Campus pour les 30 ans. On est toujours accompagné de Marion. Coucou.
Tu me redis coucou du coup.
Je te dis coucou tout le temps, toute la journée.
D'accord.
On se retrouve là du coup pour la petite présentation de livres, recommandation de livres. On va commencer par toi, ta recommandation Marion.
Et oui, finalement je pense que ça va peut-être devenir hebdomadaire.
C'est vrai que
à voir
ça
si
commence.
Tu suis aussi. Moi, je peux, personnellement. Et du coup, aujourd'hui, je vais parler de littérature classique avec le roman Lambeau de Charles Juliette, paru en 1995. C'est une autobiographie ainsi qu'une biographie de ses deux mères. Deux mères, effectivement, l'une adoptive et l'autre biologique. Ce livre est composé de deux parties. La première porte sur les mères de l'auteur. Inspiré par les carnets d'écriture de sa mère biologique, il y trace une vie paysanne de courte durée pour celle-ci, qui finira ses jours dans un hôpital psychiatrique. Pendant ce temps, sa mère adoptive portera un portrait vaillant de femme forte et aimante. La seconde partie de son œuvre retrace le parcours militaire de l'auteur. Charles Juliette exprime ses sentiments de détresse à travers ce roman, qui veut être un roman d'espoir. Pour finir, j'aimerais soulever la petite particularité que ce livre est écrit avec le pronom « tu ». Cette manière de désigner son lecteur n'est pas courante, mais s'explique par le fait que l'objectif était de créer une lettre ouverte à ces deux femmes, dont l'une qui lui a donné la vie et l'autre qui l'a élevé comme son propre fils. Même si cela peut paraître barbant, car on vous force dès votre enfance à lire des classiques, et même peut-être encore à l'université, vous en tant qu'étudiant, n'hésitez pas à vous y intéresser personnellement afin de casser ce cadre scolaire qui est donné à ces romans. Justement, on peut retrouver de belles pépites. C'était ma petite recommandation du jour.
Bah, merci beaucoup.
Et on va passer à la tienne.
Ouais, franchement, ça donnait envie. Moi, je suis un peu convaincue. Alors, c'est vraiment pas le style de lecture que j'arrive à accrocher, mais vas-y, je vais bien retenter un de ces quatre. Là.
Bah, je comprends.
Alors, moi, du coup, je vais partir vraiment sur autre chose, je pense. Ça s'appelle Fragile, se libérer des traumatismes pour créer une meilleure vie. Moi, j'ai fait la traduction, ce serait plus simple, mais la vraie version, du coup, c'est. Fragilize, Breaking Free from Trauma to Create a Better Life de Michaela Dacuon. Donc c'est un cri du cœur et c'est un manifeste pour les luttes intersectionnelles. Donc à travers son récit, l'autrice elle se contente pas seulement de témoigner des impacts dévastateurs du harcèlement scolaire, elle fait un appel à une révolution éducative et sociale. Donc c'est un livre, mais c'est aussi une arme contre les systèmes d'oppression qui perpétuent dans les cycles de violence et de marginalisation. Et donc, dès les premières pages, Dacuon, elle relie son expérience de victime de harcèlement scolaire à un contexte plus large, celle d'une société profondément marquée par les discriminations raciales de genre et de classe. Et donc, elle expose avec force comment les établissements scolaires, au lieu d'être des refuges et des safe places, elles deviennent souvent des lieux où les inégalités elles se cristallisent. Et donc pour elle, le harcèlement, il ne se limite pas à des actes individuels, mais elle reflète plutôt des violences systémiques, enracinées dans nos institutions. Donc en venant y porter un regard intersectionnel, l'autrice, elle éclaire des luttes imbriquées, donc elle montre que les questions d'éducation, de justice sociale et de lutte contre le racisme, elles ne peuvent pas être séparées. Donc elle dénonce également le silence complice des structures éducatives face aux discriminations, qui appellent à une transformation radicale de ces espaces. Donc l'autrice, elle critique frontalement les failles des systèmes éducatifs actuels, donc manque de formation des étudiants, des enseignants, déni des discriminations systémiques et absence de soutien pour les élèves vulnérables. Et donc elle propose plutôt une vision de l'éducation qui serait plus centrée sur la compétition et l'exclusion, mais sur l'écoute et la bienveillance et l'inclusion. Donc c'est un plaidoyer qui va au-delà de l'éducation. Il interroge nos priorités collectives de pourquoi on accepte que des enfants soient brisés par des systèmes qui prétendent les protéger, pourquoi la lutte contre le harcèlement reste une cause marginale et souvent reléguée au second plan des politiques publiques. L'un des grands mérites de ce bouquin, c'est de pas s'arrêter au constat. Michaela, elle offre des outils concrets pour surmonter les traumatismes, que ce soit des thérapies, de la résilience communautaire et surtout un engagement militant. Donc là, elle insiste sur l'importance de transformer la douleur individuelle en une force collective qui est capable de remettre en question les structures oppressives. Et donc elle met en avant les exemples inspirants d'organisations qui luttent contre le harcèlement. Le harcèlement scolaire pour cette situation-là, tout en rappelant que le changement, il commence souvent par des initiatives locales. Et donc là, je fais aussi un petit clin d'œil à notre émission de mercredi qui parlait justement de cette situation-là et d'une structure qui nous parlait très très bien de comment elle luttait face au harcèlement scolaire. Ce bouquin, c'est pas seulement un récit, c'est vraiment une invitation à s'indigner et à agir dans une société où les oppressions, elles se croisent et elles se renforcent. Et donc ça nous rappelle que la lutte contre le harcèlement scolaire, elle ne peut pas être dissociée des combats contre le racisme, le sexisme, la précarité et bien d'autres. Donc il y a un vrai appel à une alliance des luttes où chaque voix, elle compte, et chaque traumatisme ou névrose devient un moteur de changement. Donc voilà, c'était à peu près tout. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, d'avoir beaucoup tourné en rond, mais...
Non, c'était très clair.
C'est très clair. C'est
très lourd comme sujet, mais ça a l'air hyper intéressant.
C'est vrai que j'aborde que des sujets lourds, j'ai l'impression, mais c'est aussi important.
Bah, après, c'est ton style de lecture aussi, c'est important.
C'est vrai que je lis quand même beaucoup plus de manifestes de manière générale. on continue un petit peu en musique peut-être, avant d'enchaîner avec ton histoire. Ouais.
Oui, ça va.
On écoute un titre de Brahma qui s'appelle Onte Amar.
Yeah.
C'était Brahma qu'on avait eu l'occasion d'écouter à Hop 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 et au Rocomotive, si vous y étiez. On continue avec une histoire que tu as écrite toi-même, si je dis pas de bêtises, Marion.
Oui, c'est ça, tu ne dis pas de bêtises.
Est-ce que c'est un titre d'ailleurs ?
Mais j'ai jamais de titre.
Je me pose la question.
Je n'ai jamais de titre, je ne sais pas pourquoi.
Faudra y réfléchir pour les prochaines histoires.
Pour l'article, peut-être.
Je te laisse la parole et le micro.
C'est la fin du mois de novembre. Il fait nuit de plus en plus tôt. L'insécurité grandit dans les rues quand il fait sombre. De plus, le froid grandissant de semaine en semaine fait en sorte que les gens vont de moins en moins dehors le soir. Les seuls bostards qui restent se retrouvent face à une immense ville vide. C'est mon cas. Je m'appelle Mathis et je ne sais pas pourquoi, mais cette nuit, cette personne me fait peur. Je rentrais tous les soirs à 20h, au moment où les rues commencent légèrement à se vider quand une silhouette se démarque des autres. En face de moi, il y a un homme en costume, plutôt grand. Il pourrait s'apparenter à n'importe qui, sauf que son sourire, il a un sourire anormal. Il sourit de toutes ses dents, d'une oreille à une autre. Je dois sûrement délirer, c'est sûrement quelqu'un avec une déformation. Il faut que j'arrête de le regarder, c'est malpoli. Je décide de continuer ma route et de rentrer chez moi. L'histoire de cet homme s'est arrêtée là. Bien sûr qu'il ne s'est rien passé, j'ai juste été parano parce qu'il faisait nuit. Cependant, son visage presque inhumain me dérangeait toujours. Il était humain, c'était évident, mais pourquoi ce visage aussi difforme me perturbait alors ? Je faisais des recherches pour essayer de comprendre ce phénomène quand je suis tombée sur la théorie du roboticien Masahiro Mori, Uncanny Valley. Cette théorie démontre que plus un robot androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses ou du moins gênantes. Évidemment, l'homme que j'avais vu dans la rue n'était pas un androïde. Cependant, cela pourrait expliquer pourquoi j'avais ce sentiment étrange. Mais cette théorie a un point noir. Comment cela se fait-il qu'un androïde hyper réaliste nous fasse peur ? Pourtant, nous n'avons pas peur de nos semblables. Enfin, pas tout le temps. Cette réflexion s'éteindra pour ce soir et reprendra peut-être demain matin. Il est tard. Il est temps d'aller dormir. Le lendemain se passa normalement. Rien à signaler. 20h, je rentre chez moi. Il est toujours là. Cet être difforme. Cette fois, il me fixe et cela me gêne énormément. Je baisse les yeux, mais rien n'y fait. Je sens son regard sur moi. Je rentre chez moi en essayant de ne plus y penser. Sauf que je sens toujours ce regard sur moi. Il est à ma fenêtre. Je vois son sourire, je ne peux plus le quitter des yeux. Pourquoi son cou s'agrandit à mesure que je le regarde ? Il devient de plus en plus difforme. Je ne veux plus le voir, je vais le tuer avant qu'il me fasse du mal. Je sens quelque chose de chaud sur ma main et mon visage. Du sang. J'ai réussi. Je ne le verrai plus jamais. Je ne verrai d'ailleurs plus rien du tout à partir de maintenant.
Merci beaucoup pour cette super histoire, toujours aussi joyeuse, by the way.
Oui.
Toujours sur une petite note positive, en tout cas.
C'était surtout pour parler un peu de la théorie Uncanny Valley que j'aime beaucoup, personnellement.
Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ou ce sera pour une prochaine chronique ? Parce que je pense que pas tout le monde connaît...
Peut-être pour une prochaine chronique. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, chers auditeurs et auditrices. Est-ce que vous préférez, peut-être qu'on pourrait faire un sondage sur Instagram, est-ce que vous préférez pour Noël une histoire d'horreur créée de mon cerveau, quoi ? Ou alors, est-ce que vous voulez que je reprenne un peu le conte du Krampus ? Je ne sais pas si certains connaissent.
Moi, je ne connais pas du tout.
Ok. C'est un conte que j'aime bien.
Et bah, deux chroniques, let's go.
Voilà. Ou alors les deux.
Ok. Et bah, franchement, oui, on peut lancer un sondage Insta si les gens ont Instagram déjà, mais je pense que ça va. Est-ce qu'on écoute un petit peu de musique avant de faire un petit au revoir ?
Bon, je pense qu'on a le temps.
Ouais, et ben on va s'écouter Dimi de NZE, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, on leur demandera directement sur le plateau, vu qu'on les accueillera à l'Astrolab le samedi 30 novembre. On écoute tout de suite ce morceau.
bounty.
C'est la fin de ce Écoute ta fac. Retrouvez-nous tous les mardis, mercredis, jeudis, de midi à 13h. J'espère que vous avez pris note de tous les événements qui sont à venir et aussi des bouquins qu'on vous propose. Encore une fois, n'hésitez pas à venir faire vos propositions et vos chroniques dans Écoute ta fac. Quelque chose à redire ?
Non, c'était parfait.
Je crois que c'est l'heure de dire qu'on vous fait des bisous.
Et oui, on vous fait des bisous.
On vous fait des bisous.